Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2022 de la saison NFL sur Touchdown Actu, 32 previews en 32 jours. Grégory Richard est là, bonjour Grégory.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Victor Roulier est là aussi, bonjour Victor.
Et bonjour Grégory, bonjour Alain, bonjour à tous.
Et Victor, on va parler aujourd'hui d'une de tes équipes préférées, les Giants de New York. 4 victoires et 13 défaites l'an dernier, comme les Jets. Hier, on cultive la loose ces dernières années, 4 victoires l'an dernier, mais les années d'avant, c'est 6, 4, 5 et 3. 2 saisons positives en 10 ans. Cette année, pendant l'intersaison, on a fait venir Tyrod Taylor au poste de quarterback, Matt Breda au sol, ou des joueurs exceptionnels comme Matt Klowinski sur la ligne, ou Ricky Seals Jones au poste de tight end. On a drafté Kayvon Thibodeau, ça c'est un peu plus sérieux, et Evan Neal aussi au premier tour, donc Kayvon Thibodeau en défense, Evan Neal sur la ligne offensive, et on a perdu des joueurs comme Evan Engram, Kyle Rudolph, Nate Solder, Will Hernandez et quelques autres dont James Bradbury, Logan Ryan ou Jabril Peppers. Victor, pourquoi ça va changer, pourquoi ils vont enfin gagner dans la grosse pomme cette année?
Compliqué.
On va passer donc aux raisons pour lesquelles ils vont perdre cette saison.
Non. Il y a quand même déjà la première chose que je dirais, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'on construit une équipe sur les tranchées. La ligne défensive et le front seven globalement des Giants me donne plutôt envie. Je veux dire, on a ce duo William Lawrence au milieu qui fait le travail. On a Ojulari qui a montré qu'il avait du potentiel. On rajoute Thibodeau de l'autre côté. On a Martinez, dont certains aiment bien se moquer, mais en attendant, quand il s'agit de défendre la course, Martinez, c'est quand même plutôt un joueur fiable. Et on a même McKinney, si on va plus loin, en défense, qui est en train d'exploser au poste safety. Donc, cette défense, elle est bien coachée. Cette défense, elle a du potentiel. Alors oui, il y a des trous, notamment au poste de cornerback, on y reviendra sûrement. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une équipe globalement qui a du potentiel pour vraiment devenir une top 10 défense de la Ligue. Je pense vraiment. Peut-être pas en un an, peut-être pas, mais il y a quand même les fondations et il y a surtout, pour moi, un coaching staff qui vient de changer drastiquement et ils ont quand même récupéré Mike Kafka en attaque et surtout Don Martindale en défense, qui pour moi est un des meilleurs coordinateurs défensifs de la Ligue. Donc, je lui fais confiance pour tirer le meilleur d'un groupe qui est encore incomplet, certes, mais pour tirer le meilleur, donc, pour moi, la locomotive de cette équipe, ça sera la défense.
Bon, alors, quand tu as dit le mot top 10 défense, il y a les yeux de Greg qui sont exorbitants. J'avais l'impression qu'il essayait de soulever 150 kilos à l'arraché.
Mais il joue en NFCS, je te rappelle, Grégory. Devenir
de
top 10 défense. Quand tu affrontes à NFCS, devenir top 10 défense, c'est moins dur.
Oui, mais après, Greg, j'étais d'accord avec tout. Ouais.
On est au moins d'accord sur le fait que le pass rush est assez séduisant. Ojulari, c'est 8 sacs l'an dernier pour sa saison rookie. Kayvon Thibodeau qui arrive de l'autre côté. Leonard Williams au milieu. Enfin, il y a quand même plein de bonnes choses. C'est clairement le point fort de cette équipe.
Oui. Ils ont un bon front seven et une capacité très clairement à générer de la pression. Là-dessus, je suis d'accord. Surtout qu'il y a pas mal de profils hybrides. En effet, c'est vrai que Don Martindale, on a beau dire que la défense des Ravens c'était moins productive l'année dernière avec le nombre de blessures qu'elle a subies, voilà, je pense que c'est aussi lié à ça. Mais Martindale, je pense que voilà, il a déjà prouvé dans d'autres équipes avant Baltimore encore qu'il était capable de faire du bon boulot en défense et de générer des équipes performantes contre la passe. Ça pourrait ne pas faire exception avec les Giants, même si en effet, je rejoins globalement ce qui a été dit par Victor. J'ai rarement vu une équipe s'affaiblir autant par le biais de la draft que les Giants sur le poste de cornerback. Mais ça, après, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau des tranchées, par rapport à ce qui a été dit en attaque et en défense, en effet, il y a des motifs d'encouragement.
Qu'est-ce que tu appelles s'affaiblir par la draft ?
Bah, prendre des profils qui, par rapport à ce qu'il y avait avant, est quand même moins,
ah oui,
moins séduisant. Je veux dire, il y a 2-3 saisons, ils avaient quand même des corners d'impact expérimentés. Et là, ils ont pris des profils qui sont quand même assez intrigants et qui ressemblent plus à des nickelbacks qu'à des vrais cornerbacks extérieurs.
Mais ils ont pris Aaron Robinson, ton chouchou, quand même.
Je n'ai pas souvenir que ça a été mon chouchou à ce point-là, mais bon.
Ah si, si.
D'accord,
UCF, ok. Tu les adorais à l'époque.
Très bien, Victor, bon, bah, c'est bon, ça va.
Victor, pourquoi les Giants vont perdre et pourquoi Daniel Jones ?
Bah parce que Daniel Jones, et ça... Ça, c'est important de
dire. On est synchro depuis le début de ces previews sur les notes, je le sens, avec Victor.
Parce que Daniel Jones... Et plus globalement, j'ai envie de dire, parce que l'attaque, je suis désolé, je suis un peu binaire, comme au moment de Lions. Même si, bon, il y a un gros point faible en défense, c'est cornerback. OK, on en a parlé. En attaque, historiquement, la ligne est quand même catastrophique depuis des années. Alors, Andrew Thomas a fait une très bonne saison, sauf au mort, après une saison rookie gênée par les blessures. OK, ils ont un left tackle, c'est bien, c'est un début. Le reste... Le mieux, Feliciano, Glowinski et Neal, c'est au mieux des joueurs moyens et un rookie dont peut-être qu'il va exploser. Et alors là, ça serait la super bonne nouvelle parce qu'ils auraient deux tackles. Mais bon, ça reste un rookie. Donc cette ligne, elle ne rassure pas, surtout à l'intérieur. Daniel Jones est globalement… Bah, tu disais, on sait ce qu'on a avec Goff. On sait ce qu'on a avec Daniel Jones. On a un Goff en moins bon.
Je sais pas, est-ce qu'il peut pas être pire parce qu'il a une très belle courbe de régression. Hein. 24 touchdowns, 12 interceptions pour sa saison rookie. Ensuite, il était à 11 touchdowns pour 10 interceptions. Ensuite, il était à 10 touchdowns pour 7 interceptions en 11 matchs.
Il fait moins d'interceptions quand même.
Ouais. Oui, il joue moins de matchs. Hein, donc
il joue moins de matchs aussi, aussi.
Mais après, voilà, si je continue sur l'attaque, je veux dire, il n'y a pas de tight end. Enfin, tight end, c'est quoi ? C'est Bellinger qui a le plus de potentiel, mais enfin, ça reste très moyen. Saquon Barkley, bah super, légende universitaire, joueur au talent incroyable, mais enfin, ça fait 3 ans qu'il n'a pas foulé de pied sur un terrain correctement.
Légende, c'est le terme, hein, c'est-à-dire qu'on en entend parler, mais on ne le voit jamais. Hein.
Si tu as suivi universitaire, tu as beaucoup vu. Et en rookie,
non, mais je dis légende, mais... en NFL maintenant, du coup, c'est une légende. On la raconte, on en entend parler, mais on ne le voit plus depuis longtemps.
Et puis, au niveau des receveurs, Shepard, c'est plus que moyen. Golladé, il est venu en vacances l'année dernière, alors peut-être qu'il va se reprendre, mais alors, clairement, il était déjà
fragile, le pauvre. Hein, quand il
arrive. Et Kadarius Toney, je ne sais pas s'il n'a pas le potentiel ou s'il a été mal utilisé. Bon, on nous explique qu'au camp, il est incroyable, que c'est Tyreek Hill, qu'il va changer la NFL, etc. Bon, les rumeurs des camps, je me méfie toujours un peu.
Visiblement, il n'a pas une hygiène de travail satisfaisante. Et a priori, des derniers échos, les Giants veulent toujours s'en séparer. Après, je rebondis un peu sur ce que tu dis, Victor, mais malheureusement, du côté des Giants, on ne découvre pas grand-chose dans le sens où le salary cap, de toute façon, avec lequel devait composer le nouveau general manager, a fait qu'on a privilégié très clairement un secteur, à savoir les tranchées, et ça rejoint un peu ta logique de « on renforce une équipe par ce biais-là ». Mais malheureusement, tout ce qui est au niveau des skill positions, c'est un petit peu sacrifié en 2022 parce que voilà, on va avant tout essayer de trouver des motifs de satisfaction dans ce domaine-là. Et en effet, derrière… t'as un quarterback qui est bien trop inconstant, t'as un running back qui est jamais en forme, t'as un groupe de receveurs qui manque là numéro 1, et c'est un peu une constante sur les équipes dont on parlait ces derniers jours. Ça fait beaucoup de points un petit peu inquiétants à ce niveau-là.
Sauf que du coup, le salary cap n'excuse pas tout, puisque tu viens de le dire, c'est surtout qu'ils ont drafté comme des glands. Puisque le quarterback,
Alain. Non, j'inclus les drafts de ces dernières années, pas spécifiquement celle de 2022. Si on regarde la draft, draft en question,
il y a des. Oui, mais ils ont changé de general manager maintenant.
Oui, ils ont changé de general manager.
Très bien, mais donc ils ne se sont pas mis dedans qu'à cause du salary cap, ils se sont mis dedans parce qu'ils ont drafté Daniel Jones, parce qu'ils ont drafté Saquon Barkley.
Oui, mais moi, je redis ce que je dis, c'est une accumulation de mauvais choix sur les drafts précédentes. Et là, si tu prends juste le nouveau front office qui est arrivé pendant l'intersaison, ils n'avaient pas non plus les coudées extrêmement franches. Mmh. Ils ont dû prioriser dans des secteurs et ils ont quand même malgré tout renforcé la ligne offensive par rapport à ce qu'on pouvait avoir la saison dernière. Et voilà, et forcément, encore une fois, ça se fait au détriment d'autres positions. Donc, il ne faudra peut-être pas attendre énormément de choses en 2022. Et c'est là-dessus que j'en rejoins Victor, pardon.
Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'un des top 5 moments les plus déprimants de la saison cette année, ça va être quand Daniel Jones va se blesser, qu'ils vont mettre Tyrod Taylor à sa place et qu'ils joueront mieux?
Entre la peste et le choléra, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.
Ils vont gagner avec Tyrod Taylor qui lance 2 touchdowns pour une interception à 148 yards.
Après, Tyrod Taylor, ça n'a jamais été un mauvais numéro 2. Hein. C'est juste que déjà, c'est un joueur qui ne reste pas en forme parce que forcément, son style de jeu fait qu'il prend peut-être un petit peu plus de choc. Et il a pas la constance d'un numéro 1, mais Daniel Jones non plus, concrètement. Donc, voilà, je pense que l'objectif, c'est de voir ce que peut en faire de toute façon. J'ai oublié son nom, nouvel head coach, pardon. Je suis en train d'arrêter Daniel, mais c'est pas lui.
Brian Daboll.
Et donc, voir ce que Brian Daboll peut réussir à en faire. Je le répète, on prend beaucoup l'exemple de Buffalo, mais dans la carrière de Brian Daboll, je n'ai pas souvenir d'avoir toujours vu des attaques hyper séduisantes. Quand il était cordeau, donc on va voir si Buffalo c'est un contre-exemple ou s'il a progressé au fil des années, mais voilà, s'ils n'arrivent pas à en faire grand chose, oui, Daniel Jones, de toute façon j'anticipe un peu, mais ce sera et un possible joueur capable de les faire perdre et un facteur X à part entière.
Moi je trouve qu'ils ont vraiment le potentiel pour deux des moments les plus déprimants de la saison. Il y a ça et puis la nouvelle blessure de Saquon Barkley. Je pense qu'on est sur des.
Et puis là, il
n'y
a vraiment
fixes.
Personne derrière Barkley. Hein. Là, honnêtement, en termes de backup, là, pas qui ils envisagent éventuellement de couver derrière, de donner des snaps.
Officiellement, Matt Breda, Gary Brightwell.
C'est Breda qui a le plus d'expérience, mais bon, ça a été.
Il est fragile aussi, hein, Breda.
C'est assez. Moi, je trouve leur attaque assez déprimante, hein, quand même, honnêtement, entre les blessés, les retours des blessures, les mecs pas au niveau. Parce que tu vois, c'est pareil, on parle du GM, on dit, OK, il hérite d'une mauvaise situation, mais du coup, pourquoi c'est Tyrod Taylor et Daniel Jones encore aujourd'hui? Pourquoi tu cherches pas une solution ailleurs? Il y a eu 1 milliard de trades à faire, il y a eu des joueurs à drafter, pourquoi ils entament la saison avec Jones?
Parce que je te dis, peut-être qu'ils veulent tester comme d'autres ce qu'on peut obtenir avec Daniel Jones. Tu sais, après, c'est pareil, C'est aussi les propriétaires qui prennent des décisions et qui nomment des gens en place. S'ils ont envie de savoir si leur investissement peut valoir le coup sur plusieurs années, le nouveau front office arrive et dit OK, moi je viens avec l'objectif au moins de voir ce que ça peut faire une première année. Et puis c'est toujours pareil, ça ne t'empêche pas de construire autour d'un quarterback pendant une saison. Potentiellement, avec s'il y a mauvaise fiche à l'issue de la saison des Giants, récupérer un quarterback qui peut après avoir toutes les clés en main pour faire rebondir l'équipe. Mais voilà, c'est des stratégies différentes, mais j'entends que ça puisse laisser un peu sceptique. Ouais.
J'essaie d'être positif depuis le début de ces previews. Je vois que les Giants commencent à atteindre mon optimisme. Victor, Factor X, joueur à suivre.
Factor X, j'ai encore envie de croire à Saquon Barkley. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai vu entre guillemets performer au niveau universitaire, mais ça fait 2 saisons maintenant que je me dis, mais si Barkley revient à 100% quand même, ça change l'image de cette attaque, quoi.
Vous voulez vraiment que je finisse cette preview en prenant un Tranxen, quoi. C'est joueur à suivre, Saquon Barkley. Factor X, joueur à suivre, ce que vous voulez.
Après, c'est vrai que mine de rien, quand on regarde des running backs, hormis Adrian Peterson qui revient d'une déchirure des ligaments croisés, comme nous, on revient d'un rhume, il n'y a pas beaucoup de running backs qui arrivent à rebondir aussi bien que ça après des carrières comme ça, très, très tronquées par des blessures. Moi, je reste sur Daniel Jones. Hein. C'est vrai que malheureusement, j'attends pas grand-chose de ce jeu au sol en l'occurrence. Peut-être un Kenny Galladay éventuellement, vu qu'on parlait de... Mais là aussi, il est tellement... Il est tellement atteint, je trouve, par les pépins physiques ces dernières saisons que ça va être compliqué d'en refaire potentiellement le numéro 1 qu'il a été à une époque à Détroit.
Bon, moi, on va rester dans les Factor X d'attaque. Moi, j'avais la ligne offensive. Si Andrew Thomas confirme, si Evan Neal marche,
ça peut
justement aider Barkley, ça peut aider Jones, ça peut aider tout le monde. Donc voilà, je vais être sur eux. Le calendrier, ça commence avec les Titans, ensuite ça jouera Carolina, Dallas, Chicago, Green Bay, Baltimore, Jacksonville, Seattle, repos en semaine 9, Houston, Détroit, Dallas, Washington, Philadelphie, Washington, Minnesota, Colts et Eagles pour terminer. Calendrier plutôt soft, j'aurais envie de dire.
Bon, il joue la NFC Est.
Il joue la NFC Est, ce qui est pas mal.
Je le pique à Victor, mais il joue la NFC Est. Et même non, s'il va mais me dire attention pas, quand pas même que... les Eagles.
Non, et puis non, non, mais pas que... Jacksonville, Seattle, Houston aussi dans ce qu'ils croisent.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Non, mais la NFCS cette année a un calendrier particulièrement facile parce qu'ils jouent la NFCS et en plus ils jouent la FC Sud. Donc on est quand même sur un calendrier ultra abordable. Surtout qu'en plus, les Giants, avec leur mauvaise saison de l'année dernière, les matchs de classement sont abordables. Non, ils ont un calendrier qui est assez facile. Enfin, facile.
Combien de victoires, alors ?
Abordable.
Combien de victoires ?
Moi, j'ai mis 6.
Ouais, je suis à 6 aussi.
Oh, c'est beau. J'ai mis un bon 5.
Un bon 5.
Un 5 avec plein d'énergie, avec panache.
T'aimais ça quand t'avais un prof qui te rendait et qui disait « Je t'ai mis un bon 7 sur 20 ».
Ça dépend quelle matière. Si je savais que je ne pouvais pas faire mieux, j'en étais très satisfait.
C'est un bon 7 sur 20. Oui, 6. Parce que oui, Houston, Détroit, Seattle, Jacksonville, même Washington, ils peuvent aller en taper là-dedans. Donc,
Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, moi, je pense qu'un des leitmotivs cette saison par rapport à ce que je disais, en effet, en attaque, c'est renforcer la ligne offensive. Et c'est au moins redonner à la défense le standing qu'elle avait il y a encore deux saisons avec Patrick Graham. Ils étaient top 10 justement en termes de points concédés dans la Ligue. Forcément, comme il n'y avait rien qui marchait l'année dernière, bah, ça a dégringolé au fur et à mesure. L'objectif, c'est clairement de redevenir au moins intimidant et d'être capable de reconcéder le moins de points possible. Mais là aussi, il va quand même falloir que le secteur offensif file quand même un petit coup de main parce qu'il y a certaines rencontres, je pense à un match contre Philadelphie par exemple, où ils pouvaient jouer, à peu près 6h30, l'attaque n'arrivait pas à accumuler un first down, donc il va falloir s'améliorer à ce niveau.
Ah bah, pour le coup, moi qui regarde beaucoup la NFC Est, et souvent je fais les résumés des matchs, j'aime plutôt bien les Giants, paradoxalement, même si c'est un rival de division, mais l'année dernière, à voir jouer, c'était... Vraiment, j'ai souffert. Quoi. Il y a certains matchs, j'étais pour TDA en train de résumer le match, du coup, donc je ne pouvais pas le quitter, tu vois, parce qu'il fallait faire l'article. Mais c'était une souffrance à regarder, vraiment. Bah,
disons que Daniel Jones et Drew Locke, l'an dernier, c'était un peu all-star team souffrance. Hein. Dans les équipes qui étaient dures à voir, je me rappelle que. Allez, juste en aparté, d'ailleurs, on parlait des blessures de Saquon Barkley. Sachez que Daniel Jones n'a jamais joué une saison complète non plus, puisqu'il a joué 13 matchs en 2019, 14 en 2020 et 11 en 2021. Donc, il y a aussi ce risque-là pour les deux joueurs. On vous laisse donc avec ces pronostics autour de 5 à 6 victoires pour les Giants. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com. Tous les réseaux sociaux aussi, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. N'oubliez pas aussi émission en public le samedi 3 septembre. Je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire mars dans ma tête. Samedi 3 septembre en public pour la 500e, ce sera Wardrock Café Paris à partir de 16h. Tous les détails bientôt sur le site. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup Greg.
Toujours un plaisir.
Et on se retrouve très vite pour d'autres previews. Ça continue. Je ne sais même plus quelle équipe on fait demain. Ah, je m'étais dit, je vais faire un petit teaser à la fin de chaque. Les Houston Texans, en effet. À demain. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.